mon cœur dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, vraiment, nous sommes dans une grande joie encore ce soir, dans la mesure où le Seigneur a pris soin de nous pendant l'année passée, et nous voici dans une nouvelle année. Que le Seigneur mette une couronne de faveur sur nos vies pour l'année qui vient de commencer, n'est-ce pas? Vraiment, que nous puissions bénéficier de ses faveurs pour que la lutte qui est devant nous, que lui, qui est le triomphateur, puisse vraiment venir à notre aide. Ça va? Bon, ce soir, Frère François ne sera pas là. Il a perdu au Congo sa cousine, la fille de son oncle paternel. Oui. Ah oui, je n'ai toujours pas corrigé. Il y a, je pense, 4 ou 5 prédications. J'avais dit merci aux administrateurs, mais apparemment, ce n'étaient pas les administrateurs qui ont acheté ceci, mais c'était une sœur gentille qui a fait ce geste, parce que je parle un peu trop par rapport aux administrateurs qui n'ouvrent pas leurs poignets, toujours le flambeau, alors il faut taper. Mais ce sont des bons gérants. Félicitations d'avoir des hommes comme ça. Alors, l'administrateur lui-même est venu me dire, non, ce n'est pas nous qui avons acheté ça. Non. Maintenant, je corrige, hein. Tu es content? C'est bien, merci. Ah oui, la fois passée, nous avons vu les 4 moyens pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, n'est-ce pas? Il a été présenté sous le titre « D'éduquer l'esprit ». Éduquer l'esprit. Ben, l'être est composé de trois aspects. Il y avait l'être, l'âme et le corps. On a posé la question, mais pourquoi cette attention sur l'esprit? Éphésiens 6, 12 nous a donné la réponse. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. C'est pour cela que notre esprit doit être bien éduqué. Si notre esprit n'est pas bien éduqué, cher ami, les conséquences seront très lourdes. Très lourdes. Revenir, ça serait très, très difficile. Et on a mis en évidence 4 moyens qui sont capables d'éduquer l'esprit. On a parlé de la méditation de la parole, on a parlé de la mise en pratique de cette parole, on a parlé aussi de la mise en première place de la parole, et puis il faut que je sois sensible, que tu sois sensible d'écouter la voix de ton esprit. Parce que Dieu ne viendra jamais te parler dans ton corps. Dieu habite dans l'esprit de l'homme. Donc Dieu viendra communiquer avec toi dans ton esprit. Voilà pourquoi tu dois écouter la voix de ton esprit. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans les livres de Romains. Lèvons-nous. Dans les livres de Romains, au chapitre 8, les 6 premiers versets. Romains, chapitre 8, les 6 premiers versets. Tout le monde y est? Alors, nous allons lire ensemble. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en faisant quoi? En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là, enfin, que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Amen. Alors, nous allons porter notre regard sur le verset 4 pour que nous puissions trouver à Fabrice le titre du message de ce soir. Verset 4. Il est écrit ceci, et c'est là, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons selon la non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce soir, cher Fabrice, il sera question de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous aurez de la place? Très bien. Nous voici encore dans le contexte de la marche. La marche, la marche, la marche. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Sommes en chemin vers Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem. Quand vous êtes scellé, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Toi, tu es en marche vers le ciel. Alléluia. La marche vers le ciel. Ici, Paul le dit, il parlait aux Éphésiens. Dans le chapitre 4, verset 1, il leur disait, il leur demandait plutôt de marcher d'une manière digne de votre vocation. Alléluia. Marcher d'une manière digne de votre vocation. Et ce soir, le même Paul, quand il parle aux Romains, il dit, pour que la loi puisse s'accomplir en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Mes frères et sœurs, nous allons prêter une attention particulière à ces choses. D'ailleurs, Pierre l'a reconnu, que Paul prêchait des choses difficiles, que certaines personnes mal intentionnées arrivaient à tordre le sens. Alléluia. Nous devons bien faire attention pour comprendre la vie spirituelle. L'être est composé de trois aspects. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps. J'avais dit la fois passée, attention, attention. Il faut bien distinguer ces trois aspects de l'être. L'esprit, l'âme et le corps. Si nous ne sommes pas capables de faire la distinction entre ces trois aspects, nous allons toujours vivre ce que Paul est en train de déplorer ici aux Romains. Nous allons découvrir cette loi du péché et de la mort à tout moment. À tout moment. À tout moment, vous serez vaincus. Alors, le verset premier du chapitre 8, Paul prend quand même l'audace. Vous voyez comment il commence, le verset premier? Verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a donc, oh là là, cela irriterait tous les grammairiens du monde. Ça ne se fait pas et ça ne se dit pas. Il y a donc, tu commences un chapitre par « il y a donc ». Ça, c'est un péché grave pour les grammairiens, pour les linguistes. Ce n'est pas possible. On n'a jamais construit une maison en commençant par la toiture. Nous n'avons pas encore vu cette maison. Peut-être que c'est la maison du futur. Alléluia. Ah oui. Il y a donc, Paul, ce n'est pas un imbécile, hein? Paul, c'est un grand érudit. Hein? C'est un grand érudit, Paul. Donc, il ne peut pas écorcher la langue comme ça. Il y a donc. Qu'en est-il au juste? Il y a donc, c'est la conséquence de quelque chose qui précède. Alléluia. Quelle est cette chose qui précède? Il faut que nous remontions au chapitre 7. À partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Paul exprime une frustration. Prenons le verset Romains 7, à partir du verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Verset 25, non, verset 24, il dira, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Voyez-vous, Paul exprime une frustration par la réalité toujours présente du mal dans un individu. Alléluia. Chaque fois qu'il veut faire le bien, il y a la présence du mal qui triomphe. Alors au verset 25, le frère se pose une question. Non, au verset 24, il exprime sa frustration par l'exclamation « Misérable que je suis !» Voyez-vous, c'est une frustration parce que la loi du péché continue à prendre le dessus sur lui. Il exprime cette frustration et après avoir exprimé cette frustration, il pose une question. Alléluia. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Tant qu'il sera dans ce corps mortel, il aura à lutter contre les principes du péché qui habitent en lui et il connaîtra toujours la défaite. Alléluia. Mais au verset 25, sa réponse à la question est triomphante et immédiate. Qu'est-ce que nous voyons? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul considère le triomphe final du Seigneur pour son peuple. Alléluia. À la croix, qu'est-ce qu'on a dit? Tout était accompli. Et c'est pour cela qu'au chapitre 8, il peut commencer par « Il y a donc ». C'est clair maintenant? « Il y a donc ». Paul, qu'est-ce que tu nous dis? « Il y a donc maintenant ». Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le verset 1 nous place dans une immunité. Alléluia. Nous sommes dans une immunité. Donc, aucune condamnation n'attend le croyant, puisque la délivrance du péché est par Jésus-Christ. Grâce soit rendue. Alléluia. Il est dit. Alors du coup, il dit, oh là 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 là, plus de condamnation. Plus de condamnation. Alléluia. On n'a plus de condamnation. Nous sommes immunisés. C'est comme le parlementaire. Ils ont l'immunité parlementaire au moment où ils sont en train de remplir leur mandat. On ne peut pas les arrêter n'importe comment. Ici aussi, Paul se rend compte quand il se pose la question et que la réponse est sortie. Grâce soit rendue, du coup, plus de condamnation. Alléluia. Et le verset 2, j'aime bien ce verset. Verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. L'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce? C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Qui habite où? Dans le corps de l'homme? Non, monsieur. L'esprit de Dieu qui habite dans l'esprit. Alléluia. Et cet esprit de Dieu régénère le croyant. Il suffit de lire Tite 3, versets 5 à 6. Et cet esprit de Dieu accorde la nouvelle naissance. Alléluia. Jean 3. Versets 5 à 8. Et dans cet esprit de Dieu, la vie de résurrection de Christ s'y trouve. Il suffit de lire Romains 6, verset 4, verset 8 et verset 11. Alors, l'esprit de vie, le messager dans le Saint-Esprit, à la page 13, paragraphe 53 nous dit, maintenant, l'Esprit de Dieu, virgule, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Alléluia. On peut continuer. L'Esprit de Christ en vous. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi. C'est-à-dire, m'a libéré. Alléluia. M'a libéré. La loi de l'esprit de vie. La vie, l'esprit de vie. Le Saint-Esprit m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi de l'esprit de vie s'est montré plus forte que la loi du péché et de la mort. Alléluia. Je vais vous l'expliquer simplement. Déjà, ceux qui sont dans l'esprit scientifique, vous allez m'excuser si j'explique ça très mal. Hier, je demandais à ma femme de lire et de m'expliquer. Parce que moi, c'est langage de la scientifique. La loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur, j'ai noté. Force qui entraîne le corps vers le centre de la terre. Alléluia. Ça tombe. Maintenant, quand je tiens ça, ça ne tombe pas. Est-ce que la loi de la pesanteur est supprimée? La loi de la pesanteur est toujours là. Mais il y a une autre loi, hein, plus forte, qui agit sur la loi de la pesanteur pour que le livre ne tombe pas. Donc, la loi du péché existe. Mais il y a une autre loi de l'esprit de vie qui triomphe sur cette loi du péché et de la mort. Alléluia. Alléluia. Très bien. Donc, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Une loi, un principe, c'est-à-dire les choses, chaque fois que vous vous retrouvez dans les mêmes conditions, vont se répéter. Chaque fois que vous allez vous retrouver devant les péchés, vous allez tomber. Alléluia. Mais ces principes-là maintenant, parce que Christ est là, alléluia, bloque la loi de la mort et du péché. Alléluia. Alléluia. Maintenant, apprenons à nous confier à cet esprit de vie. Amen. Nous devons apprendre à nous confier à cet esprit de vie. Dans le message, celui qui est en vous, à la page 21, paragraphe 153, le messager dit: si seulement nous pouvions recevoir cette vérité, si un instant seulement nous pouvions nous rendre compte que ce que signifie cette parole, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez ça? Donc c'est celui-là qui prend le dessus. C'est la loi du péché et de la mort. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons comprendre cela. Cependant, nous disons que nous le croyons et nous savons que c'est la vérité, mais en réalité, nous ne le comprenons pas. C'est vrai. Nous ne comprenons pas ces choses. Parfois, nous sommes là comme des perroquets, mais nous ne sommes jamais dans la réalité de ces choses spirituelles. C'est pour cela que j'ai dit, il faut faire très, très attention de distinguer les trois aspects de l'être. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est en vous et qui est plus grand? Dites-moi. Qu'est-ce qui est en vous et qui est plus grand? C'est Christ. Point. Dieu qui était en Christ et en vous, la loi de l'esprit de vie. Christ est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, s'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez. Alléluia! C'est lui qui vit en vous, voyez-vous? Ce n'est pas votre pensée, ce n'est que vous pensez de ceci ou de cela. C'est ce que lui en a dit. Comprenez-vous cela? Par conséquent,
S'il en est en vous, il ne reniera absolument pas ce qu'il a dit. Amen. Vous savez, je n'accuse personne. De la chair jusqu'à là au fond, nous sommes des Judas.
Non, mais oui.
Quand vous dites,
ah oui, mais oui, j'aime le Christ, j'étais à l'église, on fait ceci chez nous, venez. Hein.
Mais si on peut vous observer seulement pendant 15, 30 minutes dans un environnement quelconque, nous allons découvrir si il est vraiment en vous. Caméra cachée. Ah! Chef, c'est bon, hein? Fais la caméra cachée. Et nous allons voir effectivement s'il est en vous ou pas. C'est vrai. Vous allez me dire, mais oui, frère, il faut être flexible. Hein? Paul avec les païens, il était comme les païens. Paul avec. OK, mais attention. Il faut garder maintenant la limite pour dire que oui, c'est la flexibilité de Paul que tu imites. Hein? Ah oui! Est-ce que vous n'allez pas recourir à votre volonté? Or, quand vous recourez à votre volonté, sachez que la loi du péché et de la mort va se reproduire. Alléluia! Parce que c'est un principe. Ça va se reproduire. Ça va te suivre. Alléluia. Donc ici, la loi de l'esprit de vie s'est montrée plus forte que la loi du péché et de la mort. Alors, maintenant, comme je le disais, apprenons à nous confier à cet esprit de vie. Vous venez d'entendre ce que le messager dit. Si vraiment il est en vous, et si vous comprenez qu'il est en vous, celui qui vivra en vous. Alléluia. C'est comme la montre suisse qui est bien réglée. Tac, 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 à chaque détail. Hein? C'est toujours en harmonie. Parce qu'il est en vous. C'est lui qui est au centre. Tac, 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 tac. Très bien. Alors, nous pouvons passer au verset 3 et 4. 3 et 4. On va lire. Les versets 3 et 4. Il est écrit, en effet, je commence au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Car, chose impossible à la loi, pourquoi? Parce que la chair la rendait sans force. Amen. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Attention. Non dans la chair du péché. Ah, il faut faire attention. Semblable. Christ n'est pas venu ici avec un corps de chair de péché. Non, 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 non. La Bible dit semblable. Il faut bien lire, hein? Semblable. Et semblable à celle du péché. 4. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, pour que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons sur la chair, Dieu devait faire les choses. Alléluia. Paul affirme qu'il est impossible d'être affranchi du péché au verset 3 par la loi mosaïque. Alléluia. C'est ça que nous venons de lire. Elle était sans force pour libérer du péché. Non que la loi était faible en elle-même, car la loi, elle est bonne. Paul, il est dit lui-même dans Romains 7, verset 12, il dit, la loi donc est sainte, voyez-vous, et le commandement est saint, juste et bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à cause de la chair, la loi ne pouvait pas affranchir du péché à cause de la chair. Cette loi mosaïque ne pouvait pas affranchir du péché. Pourquoi? Il y a la corruption dans la chair. Amen. Romains 7, verset 5. Écoutons ce qu'il dit. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alléluia. Et au verset 25, il dira, grâce soit rendue à Dieu par Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Dieu va accomplir la délivrance du péché. Comment? Verset 3c. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous lisons, il dit, verset 3c, il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Alléluia. Comment? En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Quel était le but de cet acte de Dieu? Le but était que la justice exigée par la loi mosaïque, qu'est-ce que la loi mosaïque exigeait? Lévitique 11, rapidement. Lévitique 11. Lévitique 11, qu'est-ce que la loi exigeait? Lévitique 11, versets 44 à 45. La loi exigeait ceci. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Voyez-vous? Car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. 45. Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. C'est ça que la loi mosaïque exigeait. Alléluia. Une vie de sainteté soit accomplie dans le croyant. Il aurait fallu que Dieu, comme il est dit lui-même, retournons dans. Il a fallu que Dieu condamne le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4, pourquoi il a fait cela? Et c'est là afin que la justice de la loi, alléluia, fût accompli en nous, c'est-à-dire être saint comme Dieu est saint. Et cette justice de la loi ne pouvait pas s'accomplir sans cet acte que Dieu a posé en envoyant son Fils dans un corps du péché. Et cette loi ne peut s'accomplir que accomplie en nous qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est clair? Donc cette loi ne pouvait s'accomplir que auprès de gens qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Très bien. Verset 5. Le verset 5 dit ceci. Après que Dieu est passé à l'acte lui-même, il a envoyé son Fils pour que la justice de la loi, la justice exigée par la loi, puisse s'accomplir en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Au verset 5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Ici, Paul distingue deux genres de personnes. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. Notre titre, marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Aujourd'hui, nous allons apprendre la première leçon. Alléluia. La première leçon. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair. Que signifie marcher ou vivre selon la chair? Alléluia. Là, c'est la première leçon. La deuxième leçon, on la verra, si Dieu le veut, les jours qui vont venir. Alléluia. Sinon, ça sera un peu beaucoup pour retenir, ça sera difficile. Il fait deux catégories, deux genres de personnes. Deux genres de personnes. Ceux qui vivent selon la chair. Et ceux qui vivent selon l'esprit. Aujourd'hui, il sera question de ceux qui vivent selon la chair. Alléluia. Que signifie marcher selon la chair ou vivre selon la chair? Mes frères et sœurs, si nous voulons comprendre cette leçon d'aujourd'hui, soyons d'abord au clair par rapport au mot chair. Ça va? Nous devons d'abord être au clair. Comme moi, je n'aime pas l'ambiguïté dans le sens des mots. J'ai mon outil de travail que j'aime beaucoup, Robert. Selon Robert, chair, c'est un tissu musculaire et conjonctif, c'est-à-dire qui se trouve entre les côtes, hein, du corps humain et animal que recouvre la peau. C'est un tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal que recouvre la peau. Alléluia. Là, c'est la chair selon les hommes intelligents de ce monde. Mais dans la Bible, le mot chair s'applique à tous ce qu'une personne non régénérée. Alléluia. Je répète, dans la Bible, le mot chair s'applique à tout ce qu'une personne non régénérée. Non régénérée, c'est-à-dire renouvelée, en régénérée veut dire renouvelée en redonnant la qualité perdue. Amen. Alors, Romains 7 dit, au verset 14, c'est Paul qui dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Alléluia. Moi je suis charnel, c'est-à-dire non régénéré. Bien. Alors, la loi est spirituelle. La loi vient de Dieu. Et Dieu est esprit. Jean 4 nous dit, Jean 4, 24 nous dit, Jean 4, 24 nous dit ceci, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous n'allez pas adorer Dieu avec votre corps, oui. L'esprit habite dans le corps. Ça va? Mais la communion avec Dieu, pas avec ton corps, la communion avec Dieu se passera dans ton esprit. C'est pour cela que ton esprit doit être éduqué. Pour qu'il soit sensible à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Quand Dieu parle, tu sens, ah, ça c'est lui qui me parle. Ça c'est Satan qui me parle. Mais si ton esprit n'est pas éduqué, tu vas confondre les choses. Ton âme va te dominer, tu vas entrer dans des sensations, tu vas entrer dans des émotions, alors que là, Dieu te donne des injonctions pour faire des choses. Comme ton esprit n'est pas éduqué, il y a des soucis. Alléluia. La loi est spirituelle. Elle vient de Dieu qui est esprit. Amen. Donc, c'est ça que Jean vient de confirmer. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Comme de ce point de vue-là biblique, nous allons appeler le Seigneur à la barre pour qu'il puisse nous éclairer. Alléluia. Par rapport à chair. Nous avons vu que dans la Bible, le mot chair s'applique à tout ce qu'une personne non régénérée. Alléluia. Comme c'est du point de vue biblique, nous allons appeler le Seigneur lui-même à la barre pour qu'il puisse nous éclairer. Jean 3. Vous y êtes? Les 6 premiers versets. Entretien de Jésus avec Nicodème. Alléluia. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'il avait peur de ses chefs. Et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Très bien, Nicodème. Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Voyez-vous, Lui, on lui parle des choses spirituelles. Lui, il est dans des choses physiques, naturelles. Vous voyez déjà? Alors que c'est un docteur de la loi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pour cela qu'il faut bien distinguer les trois aspects de l'être. Esprit, âme et corps. Alléluia. On lui parle de choses spirituelles. Lui, il est dans le corps. Voyez-vous? Nicodème. Et si Nicodème est dans cet état, toi et moi, est-ce que nous valons la qualité intellectuelle de Nicodème? Lui, Nicodème, docteur de la loi, il a été très bien enseigné à la loi mosaïque. Mais il joue à côté. Alors, toi et moi. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oh, vieux Nicodème. Peut-il rentrer dans les cieux des saints? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est devant la réalité des choses. Chef Nicodème, est-ce que toi, tu peux égaler Nicodème? Ah! Mais tu vois, quand il s'agit de l'esprit, il faut bien distinguer l'esprit de l'âme, l'esprit du corps. Nous continuons. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, et d'esprit, mais il ajoute maintenant une difficulté supplémentaire. Il parle de l'eau et de l'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume. Verset 6. Écoutons la déclaration du grand maître. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Ah là là. Là, nous pouvons répondre à trois questions cachées. Alléluia. Avec cette déclaration, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Trois questions. Qu'est-ce que la chair alors? Robert nous a parlé de la chair. Tissu de ceci conjonctivite qui recouvre la peau. Très bien. Alors maintenant, du point de vue biblique ici, le Seigneur lui-même prend cette question en main. Alléluia. Qu'est-ce que la chair? Ce qui est né de la chair est chair. Qu'est-ce qui est né de la chair? L'homme. Alléluia. L'homme est né de la chair. C'est pourquoi l'homme est chair. Et tout ce qu'un homme hérite naturellement de ses parents appartient à la chair. Alléluia. Tout ce que nous sommes à notre naissance et tout ce qui se développe par la suite est compris dans le mot chair. Ça va? Deuxième question. Comment l'homme devient-il chair? Mon frère, ma soeur, l'homme ne devient pas charnel en apprenant à être mauvais à force de pécher. Selon le Seigneur, aussitôt qu'un homme est né, il est charnel. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Donc, ça, aussitôt que tu es né, tu es charnel. Ni ta conduite, ni ton caractère qui sont déterminants. Rien du tout. Chaque homme de ce monde a été engendré des parents humains et est par conséquent jugé par Dieu comme étant de la chair. Genèse 6. Genèse 6, verset 3. Nous lisons. Alors, l'Éternel dit, mon esprit, voyez-vous, mon esprit ne restera
pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Alléluia. L'homme n'est que chair, donc mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Nous pouvons continuer? C'est clair? L'homme n'est que chair. Comment l'homme devient chair? Selon le Seigneur, l'homme n'est que chair. Alléluia. Troisième question. Selon le Seigneur Jésus, un homme est chair. Pourquoi? Parce qu'il est né du sang, de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme. C'est Jean. Jean 1, verset 13, nous lisons. Donc, pour comprendre, commençons à partir du verset 12. Mais tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça va? Donc, pour le Seigneur, un homme est chair parce qu'il est né du sang, de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme. Ça va? Alors, la troisième question que nous pouvons nous poser, la troisième question cachée, quelle est la nature de la chair? Quelle est alors la nature de la chair maintenant? Aucune somme d'éducation, de culture ou de religion ne peut empêcher l'homme d'être charnel. Ça va? Et aucune activité humaine, aucune puissance humaine ne peut les changer. Pourquoi? Le Seigneur a tranché pour l'éternité la question de la chair de l'homme. Ce qui est né de la chair est chair. Ça va? Après avoir répondu à ces trois questions, maintenant, qu'entendons-nous par marcher selon la chair? On a bien compris. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Par ces trois questions maintenant, nous pouvons traiter pour les minutes qui nous restent. Qu'entendons-nous par marcher selon la chair? C'est le verset 5, oui. Ceux qui, en effet, qui vivent selon la chair, qu'est-ce qu'ils font? S'affectionnent aux choses de la chair. Alléluia. Vivre selon la chair, c'est s'affectionner, c'est-à-dire s'attacher, se préoccuper aux choses de la chair. Alléluia. Et ces choses de la chair, c'est la mort, c'est-à-dire qu'elles mènent à la mort sous toutes ses formes. Alléluia. Spirituel et physique. Galates 5 nous parle de ces choses. Allons voir ces choses. Galates 5. Galates 5, versets 19 à 21. Il dit ceci. Or, les œuvres de la chair. Alléluia. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, l'excès des temples et les choses semblables. Je vous dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez-vous? S'affectionner aux choses de la terre. Un incroyant ne pense qu'à ses intérêts personnels et ne tient pas compte de Dieu. Il vit sans Dieu.
C'est-à-dire, lui, c'est un king. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Moi, je. Alléluia. Jamais il dira, ah oui, j'ai reçu une faveur de la part de Dieu qui m'a aidé. Non. Lui, il vit sa vie sans Dieu. Il n'y a pas de référence à Dieu. C'est lui-même qui fait des choses. Alors qu'il a dit aux enfants d'Israël, attention, ne dites pas que ce que vous avez reçu, c'est grâce à vous ou non. Jamais dit ça. Très bien, mais l'incroyant, lui, il se comporte comme ça. Il est absorbé par une vie terrestre. Il ne se concentre que sur ce qu'il peut voir, goûter et sentir. Alors, Matthieu, lui, nous donne la préoccupation essentielle de celui qui marche selon la chair. Matthieu 6, 31 et 32. Il dit ceci. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Non, 31, 32 plutôt, je me suis trompé. 31, 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Les préoccupations terrestres, ce sont les païens qui les recherchent. Mais frère, on ne va plus travailler. On n'a pas dit que vous n'allez plus travailler. Mais il est écrit au verset qui suit, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, tout ce que vous cherchez là, 31, 32, il est écrit au verset 33, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Confusion dans la vie des croyants. Mais un jour, si Dieu nous donne l'occasion, à partir de ces versets, on doit bien regarder le verbe chercher et donner. Confusion dans la vie de ceux qui s'appellent croyants. La Bible dit, cherchez, voyez-vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous devez chercher ça. Vous devez chercher ça. Vous devez, matin, midi, soir, chercher ça quand votre esprit est éduqué. Vous devez chercher le royaume des cieux et sa justice, n'est-ce pas? Vous devez chercher. Vous devez... Mais frère Albert, on ne va pas étudier. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ça, il faut chercher. Le royaume des cieux. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Des choses, donc. Le royaume. Parce que tu es un citoyen du ciel. Tu marches vers le ciel. Donc, il faut être toujours en starting block. Pas de faux pas. Quand on siffle plein, tu démarres. Ni à gauche, ni à droite. Satan, moi c'est vers le ciel, pas vers la terre. Alléluia. Vous devez vous faire violence. Mais regardez, nous faisons l'inverse. Ce que Dieu dit qu'il va nous donner, nous le cherchons. Alors que Dieu a dit, il va nous les donner. Et nous le cherchons. Nous passons tout notre temps à chercher ce que Dieu va nous donner. Et mais nous sommes vraiment des insensés. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Nous pouvons observer dans nos vies de tous les jours l'inverse dans nos pratiques. Ce que Dieu a dit qu'il va nous donner, nous le cherchons. Alors, c'est que nous devons chercher, nous ne le cherchons pas. C'est triste. Ça, c'est la vie que mène un incroyant. Et Paul nous parle encore dans 3, dans Philippiens 3, des activités de l'incroyance. Celui qui marche selon la chair, qui s'affectionne aux choses de la terre. Philippiens 3, verset 17 à 19. Il dit ceci. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voyez-vous? Ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Vous voyez ce que ça cause comme dégâts auprès des gens qui ont le souci des âmes. On vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous êtes en train de chercher autre chose. Très bien. 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voyez-vous? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Comportement différent. Continuons. Pourquoi l'affection de la chair mène à la mort? Hein? Pourquoi l'affection de la chair mène à la mort? Versets 7 et 8 nous donnent la réponse. Pourquoi l'affection de la chair mène à la mort? Ces versets 7 et 8 nous donnent 4 éléments. Verset 7. Car l'affection de la chair, 1, est inimitié contre Dieu. Ça va? Parce qu'elle ne, 2, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. 3, qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. C'est pour cela que l'affection de la chair mène à la mort. Il y a ces 4 éléments dans le verset 7 et 8. Ça va? Alors, marcher selon la chair. Nous allons terminer. Marcher selon la chair ou vivre selon la chair, c'est faire quelque chose comme venant de moi. Alléluia. Je. C'est tirer ma force de la vieille source de vie que j'ai héritée d'Adam. Moi. Le messager, dans l'imitation, dans le message L'imitation du christianisme, à la page 11, à la page, oui, c'est ça, page 11, paragraphe 68, il dit, or, votre vie montrera ce que vous êtes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si vous essayez de vous forcer à être doux, humble et tout, alors vous êtes encore en dehors du royaume. Alléluia. Parce que c'est vous. Qu'est-ce que, avec votre nature adamique, que vous pouvez apporter? Vous êtes en dehors du royaume. À ce moment-là, c'est votre œuvre à vous. Voyez-vous? C'est votre œuvre à vous. Mais un enfant de Dieu, on lui a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui fait en lui. Alléluia. C'est Christ qui gagne ses combats. Lui, il est là en train de tenir tout simplement la parcelle. Il n'attaque pas. Il est là selon ce que l'Esprit va lui dire, puisque son esprit est éduqué. Il suit les instructions de son maître. Alléluia. Il n'attaque pas. Il tient tout simplement ferme. Parce que Christ a déjà vaincu. Christ est dans la gloire. Et tout est mis sous ses pieds. C'est lui qui commande maintenant. Alléluia. La victoire a déjà été acquise. Nous gardons tout simplement notre parcelle. Que l'ennemi ne vienne pas voler. Alléluia. Notre refus d'agir par nous-mêmes a pour effet de laisser au Saint-Esprit la liberté de dominer sur la chair et de la mettre de côté. Alléluia. Si nous comprenons ça, nous avons fait un grand pas. S'il nous faut exercer tant d'efforts dans notre vie chrétienne, cela signifie simplement que nous ne sommes pas naturellement chrétiens. Alléluia. Je terminerai par une question. Chef, avons-nous des efforts à faire pour parler notre langue maternelle? Chef Suzanne, tu as des efforts à faire pour parler le quoi encore? Le Mina. Si tu commences à faire des efforts, c'est qu'il y a un problème avec toi. Hein? Tu n'es pas du Bénin. Tu n'es pas du Togo. Il y a un problème. Tu as falsifié la nationalité. Alléluia. Ah oui. Mais si tu commences à faire des efforts pour parler ta langue maternelle, il y a un problème. Hein? Quand tu fais des efforts, qu'est-ce que tu fais? Tu fais recours à ta volonté. Quand tu fais recours à ta volonté, sache que la loi du péché et de la mort prendra le dessus sur toi. Alléluia. Alors mes frères, j'insiste encore. Faisons très très attention par rapport à ces choses dont parle Paul, surtout dans Romains 8. Il développe des vérités. Il faut bien s'asseoir pour assimiler cela. Alléluia. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Vers Jésus, levez les yeux, contemplez son âge merveilleux. Et les choses de la terre failliront peu à peu. Oh, oh. Si tu lèves vers Jésus, les yeux vers Jésus,